quel bois on se chauffe? La 9e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. La 7e rencontre du réseau pour les alternatives forestières a eu lieu du 11 au 13 mai 2012 à Die, dans la Drôme, sur le thème « Gestion forestière douce et implication citoyenne ». Dans cette émission, nous présenterons plus spécifiquement deux points qui étaient centraux dans les débats à Die. Dans un premier temps, nous évoquerons les pressions de moins en moins tolérables que subissent les forêts françaises tout autant que le personnel de l'ONF, l'Office National des Forêts, qui est contraint d'augmenter la production au détriment des écosystèmes et du bon sens. Ces pressions ont été multipliées ces dernières années par le nouvel engouement pour l'énergie bois, ce qui est le deuxième thème de cette émission. Dans ce cadre, nous vous parlerons de quelques initiatives modestes et intéressantes de chaufferie, mais également de projets de centrales démesurés qui auront un impact très négatif sur nos forêts. Pour commencer, écoutons Régine Miarakis et Florent Compin qui font partie du mouvement SOS Forêt en Lorraine.
En fait, la forêt lorraine est une forêt très diversifiée, hein, puisqu'on a à la fois des forêts de plaine et des forêts de montagne. Elle n'est pas une forêt de résineux ou une forêt uniquement de feuillus, elle est très diversifiée. On a encore une forêt, une très belle forêt, mais dont la qualité patrimoniale est en train de baisser à très grande vitesse. C'est à la fois parce que cette forêt est belle et parce que les méthodes actuellement pratiquées risquent de la modifier en profondeur que ce mouvement donc est né. Et ce qu'il faut souligner, c'est que quand il est né, il y a eu vraiment une convergence entre des mouvements, on va dire, de citoyens qui se retrouvaient confrontés, par exemple, avec des projets de centrales électriques à partir de biomasse, où les tonnages étaient tellement importants que les citoyens voyaient bien que leur forêt allait être modifiée en profondeur, peut-être même aller concurrencer les usages locaux. Je dirais des forestiers de terrain dont les conditions de travail se dégradaient et qui étaient poussés à faire des sylvicultures qu'ils désapprouvaient.
Par rapport à ici, la Drôme, où on a plus de 99% de forêts privées, en Lorraine, c'est totalement l'inverse. On a 2/3 de forêts publiques pour 1/3 de forêts privées. Donc il y a une pression en fait qui est maintenant de plus en plus forte sur ces forêts publiques qui sont de plus en plus surexploitées, dont les conditions de travail se dégradent pour les agents de terrain et où ces agents de terrain ne supportent eux-mêmes plus les conditions d'exploitation de cette forêt. Donc il y a une pression qui est mise en termes de quantité de bois qu'on veut sortir de nos forêts. Il y a des pressions qui sont exercées à tous les niveaux, en termes aussi de développement de la mécanisation dans l'exploitation de ces forêts, et aussi par la pression énorme que constitue le bois énergie. Donc le bois énergie qui maintenant, avec tous les projets de chaufferie, de centrales électriques, de tous ces projets biomasse subventionnés, payés avec nos impôts, qui exerce une pression sur la ressource forestière qui est maintenant plus tolérable ni pour les agents, ni pour les simples usagers de la forêt. Hein. Les usagers de la forêt, ces gens qui se baladent en forêt et qui ne reconnaissent plus leur forêt. Il y a vraiment un gros problème par rapport à ça. On a vraiment un gros souci avec l'exploitation telle qu'elle est mise en place. Et on va le dire par l'ONF, hein. C'est clairement l'ONF qui est acteur sur le terrain dans notre forêt. Donc cette pression accentue maintenant les dérives, et ces dérives sont pour nous vraiment intolérables. Donc vu qu'elles sont intolérables, il y a maintenant des énergies qui se regroupent, et vu que ce sentiment est général, autant des agents que des associations, que des usagers en tout genre, tout ça se réunit finalement sous la forme d'un collectif pour justement faire porter une autre voix. Et les suites du rapport Guémard, la forêt ne peut pas sortir 40% de bois supplémentaire, donc il faut vraiment trouver des alternatives par rapport à ça. Cette phrase contre laquelle on s'offusque de produire plus tout en préservant mieux la biodiversité, ce qui est totalement une hérésie, donc c'est vraiment le premier point qui choque. Mais ce point choquant se retrouve dans la pratique sur le terrain, mise en place par un développement de la mécanisation. Et ce développement de la mécanisation, bien sûr, permet les engins toujours de plus en plus gros, de plus en plus lourds, donc qui ont de plus en plus d'impact à tous les niveaux, qui ont des impacts sur les sols, sur la biodiversité, et sur directement sur le travail forestier des agents de terrain, par ce développement, cette réduction des bûcherons, forcément, ces développements des routes forestières qui posent aussi des soucis. C'est vraiment une image de la forêt qui est destinée à faire une forêt de production pure et dure. Bah, notre forêt a beau être une forêt de production, hein, ça on conteste pas qu'une forêt soit exploitée et produise. Maintenant, il ne faut pas que des ressources comme le bois énergie viennent vraiment influer sur la production de bois d'œuvre, par exemple.
Je pense que sur cette question de l'énergie, on s'aperçoit qu'en fait, on prend toujours le problème à contresens. C'est-à-dire que on se dit, voilà, il faut des énergies renouvelables. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie renouvelable disponible? Voilà, et on tombe effectivement sur l'énergie et le bois de la forêt. En fait, la priorité, ça serait localement, régionalement, toujours de raisonner de manière... À voir quels sont les gisements d'économie d'énergie, à voir comment on peut améliorer l'efficacité énergétique, et puis en dernier ressort, effectivement, quand on cherche des sources d'énergie, pouvoir disposer du bois. Alors, sauf que le bois, ben, ça dépend aussi de la manière dont on le met en œuvre. Ça suppose déjà que quand on lance un projet, il ne soit pas lancé indépendamment d'une étude de la ressource. Et puis qu'il soit lancé dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que si c'est pour brûler du bois vert, qui aura donc un rendement extrêmement médiocre, on a tout perdu. On a l'exemple notamment de l'usine d'électricité de Metz, du projet de l'UEM, où en fait on brûle du bois avec un taux d'humidité absolument énorme pour chauffer des logements qui ne sont pas isolés. C'est-à-dire que là, on a tout faux... sur l'énergie bois. Le bois, effectivement, est une ressource renouvelable, mais quand même renouvelable à long terme. Hein. Ça ne se renouvelle pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on peut très bien décapitaliser la forêt de toutes ses ressources en bois énergie brutalement et puis se retrouver sans aucune énergie du tout. Donc, en fait, il faut vraiment que les projets soient étudiés de manière extrêmement pointue, de manière à ce qu'ils soient efficaces et que la ressource soit utilisée au plus près de la demande. Et que, notamment, on ne vise pas de gros projets nationaux de fabrication d'électricité ou de gazéification du bois comme à Bure-Saudron, alors que ce bois pourrait directement servir dans des chaufferies bois locales ou pour éventuellement de l'industrie locale.
Régine Miarakis et Florent Compin de SOS Forêt Lorraine dénoncent donc fortement les pressions que subit l'ONF. Écoutons Rémi Picavé, qui a connu l'Office de l'Intérieur.
Alors j'ai travaillé pour l'ONF un an et demi, donc dans le Puy-de-Dôme, j'étais responsable d'une équipe de terrain. Donc l'échelon en fait entre les agents patrimoniaux qui sont ceux qui sont directement dans les forêts et du coup l'aspect plus administratif avec les responsables départementaux, interdépartementaux.
Alors, il semble qu'il y a certains aspects qui t'ont dérangé ou enfin tu ne trouvais pas vraiment à l'aise avec. Et on parle pas mal de changements, enfin de pression qui augmente peut-être à l'intérieur, en tout cas auprès de l'ONF pour être, il y a de moins en moins de personnel, j'entends, et aussi il faut produire plus. Est-ce que c'est ça que tu as senti pendant ton passage à l'ONF?
Bah, clairement. Les politiques, elles sont clairement affichées. C'est une déclinaison directe des discours de Sarkozy à Urmad, par exemple, et des politiques générales de notre société, c'est-à-dire on va vers du rassemblement industriel de tout ce qui est transformation. Donc ça va être n'importe quel type d'usage du bois. Ça va être en première transformation les scieries. On fait des grosses unités qui du coup ont besoin d'énormément d'approvisionnement. Et donc au niveau scieries, mais aussi au niveau, on parlait de chaufferie ici, voilà, chaufferie et puis création de granulés, tout ça. C'est des unités qui sont énormes, qui du coup sont affamées et du coup vont influencer la gestion dans le sens où nous il faut du coup que voilà qu'on réponde à cette demande là et la dynamique de l'office c'est clairement ça, c'est en plus des problématiques interne à l'office de diminution du budget, de devoir être indépendante, enfin l'office doit s'autofinancer, et en plus il y a les politiques, voilà, de sortir plus de bois parce que les statistiques globales dont on connaît les défauts ont mis en évidence qu'une partie de l'accroissement n'était pas prélevée, que du coup on pouvait taper plus, et en fait malheureusement, comme souvent, c'est à l'emporte-pièce. On prend une décision à une grande échelle et du coup, elle se répercute au niveau local sur des aberrations au niveau sylvicole qui mettent les gens mal à l'aise, mais qui, de fait, se réalisent quand même. Parce que voilà, l'agence interdépartementale a son tableau d'objectifs qui a été signé et en fait, le système est fait de sorte qu'on se met nous-mêmes sous pression et que chaque petit maillon de la chaîne se met sous pression et du coup, on fait des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Le ressenti humain, il est très difficile à l'intérieur de l'office, ou en tout cas, je parle de ce que j'ai vécu, mais les gens se sentent dépossédés d'un travail qu'ils aimaient et ils le font d'une manière voilà, où ils se sentent sous pression, ils se sentent avec plus de boulot et ils ne peuvent plus faire le boulot bien. Enfin, ça, c'est une réalité qui est aujourd'hui à l'ONF, c'est ce que j'ai ressenti, clairement.
Dans l'atelier, où à un moment donné, tu as parlé de mécanisme où il y a des dérives. Je crois que ça s'appelait le plan d'approvisionnement territorial. Et puis il y a aussi le schéma de dessertes, par exemple, que maintenant, sous cette pression de voir la forêt comme un gisement de production pour le besoin de l'industrie, etc., il y a des dérives dans ces procédures-là.
Alors, ce dont je parlais pour le plan d'approvisionnement territorial, moi, je le voyais plus d'un point de vue scientifique, comment est-ce que le processus était fait? C'est-à-dire, l'idée derrière le plan d'approvisionnement territorial, c'est de faire un bilan, notamment sous l'angle bois-énergie, de faire un bilan de la forêt telle qu'elle est dans une surface, à une échelle géographique qui était déterminée à l'avance, faire un bilan de l'état des forêts et où est-ce qu'on pourrait aller chercher du matériel qui pourrait être utilisé dans le bois-énergie. Donc, avec une définition de qualité, avec une définition, voilà. Et en même temps, réfléchissant dans ce plan d'approvisionnement à où est-ce qu'on pourrait faire du stockage, où est-ce qu'on pourrait mettre les unités de transformation et les unités de consommation. Voilà. Alors, ce que j'ai ressenti là-dedans, c'est déjà, moi, d'un aspect purement scientifique et forestier, analyse du milieu, c'était des gens qui n'avaient pas forcément le temps ni les moyens de faire les choses bien, qui étaient assez pressés notamment, c'est-à-dire les moyens intellectuels, ils les ont, c'est pas du tout ça le problème. Du coup, les choix qui sont faits pour faire les inventaires sont pas forcément pertinents et amènent à des aberrations. Dans les analyses, on a eu des discussions qui étaient simplement hallucinantes sur des questions par ces gens qui étaient en train de construire leur plan d'approvisionnement territorial. C'était des questions qui étaient hyper naïves et avec des erreurs hyper basiques sur les analyses. Et en fait, ces gens-là, ils étaient contents que moi ou d'autres forestiers du coin, on vienne discuter avec eux parce qu'ils étaient en plein dedans et ils se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de regrouper, par exemple, dans une seule classe forestière des forêts qui avaient absolument pas les mêmes potentiels d'un point de vue bois énergie. Et donc voilà. Donc ça, c'était une grosse dérive. C'est comme si c'était déconnecté entre on prend des décisions, il faut qu'on mette en place des unités de transformation énormes et tout ça, et puis les moyens qu'on se donne pour analyser, est-ce qu'on peut le faire quoi. Et c'est déconnecté.
Ce que veut dire que des grosses unités pourraient être installées en fait dans des régions où au fond le potentiel en bois n'existe pas ou à peine.
Malheureusement, du coup, on peut pas répondre à cette question. C'est ça l'idée. Parce que je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire cette analyse. L'analyse, elle est intéressante. Ce que je suis en train de dire, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre, et alors après, moi, je suis aussi critique sur la façon, parce que c'est de la modélisation informatique qu'ils font pour représenter ça. Les moyens qui sont mis en œuvre sont pas forcément pertinents avec la démarche. Le truc, c'est que d'entrée, on est en train de réfléchir pour des grosses unités de transformation. Pourquoi? Déjà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on utilise des gens qui sont externes à nos territoires, qui viennent, qui sont subventionnés pour une période limitée et en fait qu'il n'y ait pas d'utilisation de toute la connaissance qui est déjà là, point de vue territorial depuis longtemps, mais en fait c'est des gens nouveaux qui viennent, qui posent les mêmes questions qui ont déjà été posées par plein d'autres études, etc. Tout le temps pareil. Enfin voilà, moi dans mon idée, ça serait des unités a priori plus petite à échelle humaine, avec des gens qui sont là, qui comprennent les enjeux, qui connaissent le terrain, qui ont un peu de recul par rapport à ça, et qui du coup vont pouvoir prendre des décisions éclairées, ou plus éclairées en tout cas, et savoir aussi, vu qu'eux ils restent dans le terrain, vu qu'ils y sont, ils vont pouvoir les faire évoluer avec l'évolution qui est nécessaire au fil du temps. Et donc il y a des partis pris au départ qui ne sont pas forcément pertinents, quoi.
Par rapport à la desserte, là, c'est, je veux dire, il y a des zones où il y a des pistes énormes, absolument, qui se font. Est-ce que c'est aussi un risque que là, à cause de cette envie de chercher de plus en plus de bois, quoi, pour des grandes unités, etc., c'est qu'en fait, on fait des très, très grandes pistes qui défigurent, en fait, le paysage?
Alors, le souci des pistes, c'est comme le bois énergie, c'est-à-dire, je pense que c'est nécessaire. Il y a de la ressource, il faut aller le chercher. Après, voilà, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on oublie de donner le sens. Aujourd'hui, dans la région où je travaillais, les petites scieries, elles disparaissent petit à petit. Et en fait, la conscience civile, la société civile, elle n'est pas là pour dire, mais il est en train de se passer quelque chose, est-ce qu'on a choisi vraiment de faire ça? Et du coup, voilà, ces petites choses, elles disparaissent. La création des certes aujourd'hui, elle se fait à l'image des grosses unités. Elle se fait à l'image des grosses unités, c'est-à-dire il faut que les gros grumiers puissent passer, il faut que du coup derrière on va utiliser des skiders, des grosses unités, des tracteurs qui vont aller en forêt et tout. Donc il faut que ça soit dimensionné pour ces choses-là. Donc oui, les routes elles vont être énormes. Ensuite sur les routes, c'est l'aspect subvention aussi qui influe énormément sur le fondamental, sur le sens qu'on donne aux choses. Comme c'est subventionné, voilà, en plus ça fait travailler les entreprises local et tout, donc il y a des enjeux au niveau des communes. Les maires, ils se disent, bah oui, c'est bien, ça fait de l'activité, c'est voilà, super. Et en plus, derrière, ça va faire de l'activité aussi pour les gens qui viennent avec les tracteurs, parce que c'est aussi sans doute des gens qui vivent et qui travaillent dans le coin. Et donc voilà, donc il y a les deux côtés de la balance. Et si on arrive aujourd'hui avec un discours alternatif en disant, mais vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de façonner le paysage forestier d'une manière hyper particulière, y avez-vous réfléchi, l'avez-vous choisi? Je suis pas persuadé que la réponse soit oui, quoi. Est-ce que les gens, ils se rendent compte que les choix qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est en train d'orienter la forêt très fortement, et comme d'habitude quand on touche au milieu forestier, pour des dizaines, centaines d'années.
Peut-être un autre élément que je voudrais savoir, il y a un collègue, enfin un ex-collègue on peut dire, il travaille lui toujours pour l'ONF, mais dans le 04, dans les Alpes-de-Haute-Provence, il a dit que dans sa région à lui, il y a vraiment l'arrivée maintenant, pour la première fois au fond, assez massive des abatteuses. Est-ce que là... tu as aussi senti ça dans la région ou peut-être ailleurs, que maintenant on passe vraiment à un stade encore plus mécanisé, quoi, avec des très grosses abatteuses?
Alors, j'ai peut-être pas autant de recul que lui sur l'évolution au sein de l'office. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, il y a des abatteuses qui se développent. Et ce que j'ai constaté aussi, du coup, ce que j'ai entendu, parce que pareil, j'y ai travaillé qu'un an et demi, mais ce que j'ai entendu, c'est que les bûcherons disparaissent. C'est-à-dire les bûcherons, le gars avec sa tronçonneuse... qui en plus travaille bien et qui en plus sait travailler sur des arbres enjardinés, c'est en train de disparaître. De toute façon, la mécanisation, les grosses machines en forêt, ça répond aux politiques. C'est subventionné. Le bûcheron qui aujourd'hui monte une petite entreprise et demande et recherche des subventions pour se lancer dans son activité, et ben il va en avoir s'il achète une grosse unité. Et au-delà de ça, il va en avoir 5 ans après s'il en rachète une plus grosse, etc. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est mon ressenti des dynamiques politiques, c'est-à-dire c'est les décisions qui sont prises, c'est vers ça que sont incités les gens. Et ce qui veut pas dire, en tout cas pour moi en tant que forestier, ce qui veut pas dire que ça correspond à ce que moi j'aimerais voir et moi dans le contexte dans lequel j'aimerais travailler. Ouais.
Est-ce que cette augmentation, je pense, assez importante de la demande, qui risque encore de continuer à augmenter pour le bois énergie, va en fait avoir comme conséquence que, en fait, on utilise toutes sortes de bois pour ça, et donc des utilisations plus traditionnelles, peut-être même pour le bois d'œuvre, pour des scieries, les menuiseries locales, enfin tout ça, va en fait disparaître de plus en plus?
C'est probable. C'est la monétisation de la ressource. Donc en fait, ça va être des gens, des industriels qui vont jouer avec le prix des bois. Et si le gars, il fait son calcul économique et en fin de compte, ce bois-là, s'il l'achète à ce prix-là, que ce soit du bois, potentiellement du bois d'œuvre ou quoi, mais que lui, il peut le transformer et qu'il va le mettre dans son usine et que ça va faire, ça va correspondre à ce que lui, il a besoin à ce moment-là, bah oui, ça va se passer. Le bois d'œuvre, il va partir en tritu. C'est des choses qui se passent actuellement dans d'autres coins d'Europe, peut-être même dans l'autre coin de France, je sais pas. Et je vois pas comment ça pourrait ne pas se passer. C'est le jeu de l'économie. La ressource, elle va partir là-dedans. Et c'est les enjeux, voilà, c'est les enjeux pour les alternatifs. qui soit très alternatif ou peu alternatif, c'est d'arriver à faire du tri, arriver à labelliser ou à orienter les différents types de bois qu'on a et de savoir les mettre au bon endroit. Mais c'est vrai que si les grosses unités se créent, elles sauront venir, elles sauront tout bouffer. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est le danger, c'est l'enjeu, quoi.
Les pressions sur l'ONF s'expriment d'une façon très concrète sur le terrain. Régine et Florent de SOS Forêt Lorraine.
Nous, la manière dont on s'en est rendu compte, c'est que on pense que le document d'aménagement de la forêt est un document important, puisque à un moment donné, on se penche sur la gestion qu'on veut faire à l'échelle d'une forêt, d'un massif. Et puis, c'est un document de gestion sur lequel ensuite les forestiers vont se fonder pour un certain nombre d'années, 15 ou 20 ans. Voilà. Et on avait remarqué, nous, en Lorraine, qu'un certain nombre d'aménagements en forêt domaniale, qui devait donc être approuvé au niveau national par la direction générale de l'ONF, ne revenait pas. C'est-à-dire que les techniciens chargés d'aménagement avaient fait leur travail, ça avait passé l'échelon régional, et puis arrivé à l'échelon national, les aménagements ne revenaient pas approuvés.
Pourquoi ils n'ont pas accepté alors ?
Alors, nous, on n'a pas l'explication, on n'a que des hypothèses. Et parmi les hypothèses, il y a le fait que les aménagements qui montent à Paris ne sont pas jugés suffisants en termes de prélèvement de bois. C'est vrai que la direction générale de l'ONF descend régulièrement sur le terrain pour demander à augmenter les prélèvements de bois.
Oui, bah c'est ça, je ne fais que relater les propos aussi entendus par ces forestiers-là, des forestiers qui sont arrivés au collectif SOS Forêt, de forestiers qui disaient eux-mêmes, il y a 10 ans, vous ne nous auriez jamais vus dans une réunion de ce type-là. Et là maintenant, ils sont à un tel niveau d'indignation qu'ils ne peuvent pas ne pas faire quelque chose pour que ça change. Ces gens qui sont des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent leur forêt, passent et justement font leur martelage, et derrière leur direction considère que c'est pas assez, eux refusent d'aller marteler encore du bois supplémentaire dans cette forêt-là, et leur direction décide d'y envoyer quelqu'un d'autre pour remettre en question ce qui leur a été dit, quoi. Et ça, c'est réellement un souci qui est présent chez les forestiers et qui n'existait pas il y a encore 10 ans de ça.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples de pression comme ça sur l'équipe locale, en quelque sorte, de l'ONF?
Bah bien sûr, il y a des pressions à tous les niveaux. Je veux dire, avant, les forestiers étaient des gens qui avaient des marges de manœuvre qui étaient importantes sur les forêts qu'ils géraient. Ces marges de manœuvre, pour eux, réduisent en permanence. Donc, ils ont de moins en moins de possibilités de gérer la forêt comme ils l'entendent eux-mêmes. Et la pression, elle est à sens unique. Elle est dans sortir plus de bois. Il faut toujours sortir plus de bois et encore plus de bois.
Heureusement, la rencontre à Die du réseau pour les alternatives forestières a aussi permis la présentation de plusieurs projets exemplaires de taille modeste dans le domaine du bois énergie. Écoutons par exemple Jacques Villevieille de l'entreprise ERE43 qui est basée dans la Haute-Loire.
Le projet, effectivement, c'est d'avoir une structure qui permette d'aller de l'arbre en forêt jusqu'à la fourniture de chaleur, donc au radiateur, avec une chaleur pilotée, régulée et optimisée pour avoir un très haut niveau de confort. Et donc le projet, c'est de réaliser dans un circuit très court y compris en milieu rural où le monde économique n'est pas forcément très très fort, un système autonome qui puisse marcher même quand il fait moins 15, moins 20 et qui a 60 cm de neige. Donc voilà, donc le principe, on a créé une structure qui s'appelle une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, elle s'appelle ERE43.
ERE, ça veut dire quelque chose peut-être ?
Énergie renouvelable et environnement. Mais on pourrait dire aussi expertise en rénovation énergétique, donc c'est modulaire. Voilà, et on a imaginé un concept de micro-chaufferie qu'on appelle modulaire, qui est en fait une boîte en bois préfabriquée. J'aime pas le terme boîte parce que c'est un peu péjoratif, mais un ensemble préfabriqué en usine, en atelier, qu'on construit d'ailleurs avec un charpentier localement. On y insère des éléments, donc une chaudière, de l'hydraulique, de l'électronique pour piloter, de l'informatique pour commander à distance. Et puis on enterre des réseaux et on relie plusieurs bâtiments. Pour donner un exemple, au Mazé-Saint-Voie, donc sur le plateau Vivarais-Lignon, avec une chaudière de 200 kW, on chauffe le temple, un lieu de culte, deux lieux de culte collectifs, deux lieux communaux, l'école et la maison des jeunes, et deux habitations. Et on envisage une extension de réseau, parce que même qu'on soit à 1100 mètres d'altitude, on a encore de la marge avec une chaudière de 150 kW.
Mais après, il y a la question de la plaquette, enfin, ce qui va brûler là-dedans. Alors, comment vous organisez ça ?
Alors là, on essaye de mobiliser les propriétaires forestiers locaux, puisque chez nous, là, la propriété forestière est privée, est très très morcelée. Et donc, on essaye d'acheter le bois aux gens qui nettoient leur forêt, en fait. Hein. C'est tout du bois qui, aujourd'hui, n'a pas de débouché. Et quelque part, la petite revalorisation qu'on arrive à apporter à ce bois sans valeur, ben ça permet aux personnes qui le font d'avoir un travail quelque part un petit peu rémunéré.
Donc en fait, on peut dire que la totalité du bois qui est utilisé vient d'un rayon relativement restreint.
Ah oui, tout à fait. Nous, l'objectif, c'est d'arriver à utiliser du bois dans un rayon de 10 km. On est dans un territoire où entre 35 et 45% de la surface de la commune est boisée. Donc l'objectif, c'est vraiment de valoriser ce bois. Et quelque part aussi, en nettoyant les forêts, de revaloriser le bois qui va rester sur pied, en élaguant, en pratiquant une sylviculture. L'objectif, c'est aujourd'hui de remettre de l'entretien et du travail en forêt pour que ça prenne de la valeur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de peuplements forestiers qui, malheureusement, n'ont pas une grosse valeur marchande.
Ça, c'est une façon de gérer les forêts qui, probablement, est plus onéreux en travail, enfin, peut-être plus cher dans le court terme que, par exemple, faire des coupes rases, et ça, vous arrivez quand même.
On cherche un modèle économique qui permette justement de travailler intelligemment. Nous, on préfère la force des neurones et de la réflexion que la force des machines et du pétrole. Enfin, voilà.
Pour revenir sur ton entreprise, je crois que si j'ai bien compris, c'est une très belle idée et puis ça marche, mais quand même, c'est pas facile. Économiquement, et c'est beaucoup de boulot, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu penses peut durer, quoi ?
Je pense qu'aujourd'hui c'est dur parce qu'en fait il faut tout créer à partir de rien et se battre contre pas mal de fonctionnements différents de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui le modèle économique c'est grossir, manger son voisin pour être plus gros, pour pouvoir manger le voisin d'à côté. Nous la logique c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est partir de l'arbre pour aller jusqu'au radiateur. Donc ça nécessite de maîtriser tous les maillons de la chaîne. Au lieu d'avoir une logique où il faut être un gros maillon pour être incontournable, nous, l'objectif, c'est d'avoir une petite chaîne solide et continue et cohérente. Donc, je crois que ce qui est aujourd'hui compliqué, c'est cette différence d'approche. Et donc, on se retrouve à faire 36 métiers et quelque part un peu 36 misères, comme le dit le dicton. L'idée, donc, nous, SIC, hein, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, c'est un système assez spécifique où il faut que les acteurs soient actionnaires. Et quand je dis les acteurs, c'est y compris les clients. Donc, il me semble ce qui aurait du sens, c'est créer ce type d'entreprise sur des territoires donnés et sur la problématique de la forêt. On sait que c'est très lié à des massifs, des peuplements. Donc, chaque fois, la solution doit être réadaptée, modifiée, tout en gardant la même structure générale. Et donc, effectivement, on a essuyé pas mal de plâtre. Et ce qui serait intéressant, à mon avis, maintenant, c'est de faire part un petit peu de ces expériences et d'arriver à les valoriser sur d'autres secteurs.
Retour dans la région d'Oise, lieu de cette 7e rencontre du réseau. Écoutons Lionel Seigné qui fournit du bois en plaquettes pour des chaudières de la vallée.
Nous nous sommes lancés dans le bois-bûche il y a 10 ans et puis par rapport un peu aux demandes dans la vallée, des projets devaient se réaliser en chaufferie bois déchiqueté et il n'y avait aucun fournisseur, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'activité il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on a de la peine un petit peu à trouver des chaufferies collectives sur le Diois même qui arrivent. Ça arrive tout doucement, mais ça aura mis du temps, quoi. Mais aujourd'hui, je suis agriculteur et en parallèle, donc, nous avons une activité forestière.
Et ici, vu l'étendue de forêt autour de Die, il y a vraiment un potentiel important dans la plaquette. On pourrait vraiment fournir pas mal de chaudières. Hein.
Bien sûr, ce qu'il faut savoir sur le Diois, c'est que vous avez entre 4 et 6 camions qui descendent tous les jours à Tarascon en papeterie. Imaginez le cas contraire de les garder dans le Diois pour chauffer notre Diois, voire même le bas de la vallée comme le haut de la vallée, quoi. Nous avons la ressource ici. Mais bon, il faut gérer la forêt, il ne faut pas vouloir non plus tout couper, quoi. Il faut aller tout doucement, quoi. Mais nous avons le potentiel ici dans le Diois pour se chauffer si on voulait, quoi.
Et le bois que vous trouvez, c'est plutôt chez les privés ou c'est avec des accords, enfin en travaillant avec l'ONF?
Il y a les trois quarts de privé et une partie avec l'ONF. Voilà, mais c'est les trois quarts, c'est du privé, quoi. Bon, mais l'année prochaine, normalement, le lycée de Die doit se munir d'une chaufferie à bois déchiqueté. Des projets, il y en a, mais bon, moi, je souhaite qu'ils se réalisent.
Pendant la rencontre à Die, plusieurs visites ont été organisées dans la région, dont une au village de Saillant, qui vient d'installer une nouvelle chaufferie alimentée par le bois en plaquettes livré par l'entreprise de Lionel Seigné. François Pégon, maire de Saillant, explique.
Nous nous sommes retrouvés devant la nécessité de construire une extension de notre groupe scolaire, parce que nous avons une évolution démographique assez forte, mais bien sûr qui l'accompagne une évolution démographique enfantine, voilà, assez forte. Et l'inspecteur d'académie, il y a 2 ans, nous a informé qu'il ouvrait 2 classes à Saillant, 2 classes supplémentaires, ce qui est assez rare et qui fait le bonheur des communes en général. Bon. Donc il a fallu que nous employions très très vite à créer donc un bâtiment école, une extension à notre école actuelle. Et c'est posé, bien sûr, dans le cadre de notre gestion municipale, comment chauffe-t-on ? Comment chauffe-t-on et comment bâtit-on ? Donc la première chose que nous avons faite, c'est que nous avons construit en bâtiment à très haute performance énergétique. Et sur le mode du chauffage, nous avons abandonné l'énergie fossile au profit de l'énergie bois. Et donc nous avons créé une chaufferie à bois déchiqueté avec bien sûr son silo qui l'accompagne, hein, qui lui est apposé. Nous avons dimensionné le projet dans le cadre d'un projet plus global, puisque nous avons également comme volonté de créer une maison de l'enfance et de la parentalité. Et nous avons également donc en projet, dans le cadre du PLH, du programme local de l'habitat, le projet de construire 2 immeubles, un en accession à la propriété et un en location, donc type social, qui eux-mêmes seront connectés, branchés sur le réseau de chaleur. Donc nous avons, vous allez voir, nous avons dimensionné l'équipement, nous avons une chaudière qui est un peu plus grosse, bien sûr, que celle qui était prévue au départ. Nous l'avons surdimensionnée pour pouvoir effectivement répondre à cette évolution.
Parallèlement à la création de ce genre de chaudière pour des besoins de proximité, basée sur une ressource très locale, il y a également de plus en plus de méga-projets de centrales utilisant le bois pour fournir de l'énergie. Écoutons Régine et Florent de SOS Forêt Lorraine qui nous apportent des précisions sur le central de Bure dont ils ont déjà parlé.
C'est un projet qui est piloté par le commissariat à l'énergie atomique. C'est un prototype donc, qui vise à gazéifier de la biomasse. Au départ du projet, on parlait de biomasse agricole et forestière. Bon, la biomasse agricole étant plus faible en tonnage que la biomasse forestière. Mais actuellement, on parle surtout et essentiellement de biomasse forestière. Il faut déjà situer le contexte du projet. C'est un projet qui est apporté, on va dire, comme un paquet cadeau avec le projet de laboratoire donc en vue de l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Et donc ce projet de gazéification est également dans le même secteur, hein, Bure-Saudron. Et depuis que ce projet d'enfouissement est sur la région Meuse-Haute-Marne, on a eu droit à une nucléarisation, enfin moi ce que je pense être une nucléarisation progressive des esprits et de l'économie locale, où tous les projets qui émergent sont des projets qui arrivent du national et qui visent à nous faire accepter l'enfouissement des déchets radioactifs.
Avec l'argument que ça apporte des places d'emploi.
Que ça apporte des emplois, voilà. Hein, donc toujours donc les archives d'EDF, les pièces de centrales nucléaires, la gazéification du bois à Bure-Saudron, voilà. Et ce projet me semble dangereux parce que justement c'est un prototype. C'est-à-dire que derrière un prototype, on sait que c'est pour mettre un certain nombre d'autres unités ailleurs en France. Et avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir donc sur l'approvisionnement et la ressource bois qu'il faudrait tirer de nos forêts.
Parce qu'après, je veux dire, c'est une unité prototype, mais déjà en grande échelle ou c'est plutôt quelque chose de...
Oui, c'est plus... Enfin, je ne sais plus quel est le tonnage, mais c'est quelque chose de l'ordre de 175 000 tonnes voilà, de bois. Hein, donc c'est pas un petit projet, hein, et c'est pas le seul projet. Il y a X projets en région Lorraine. Ça commence à faire un tonnage extrêmement fort sorti des forêts.
Je voulais juste corriger le tonnage. Le tonnage donc de ce projet démonstrateur BTL, donc biomasse tout liquide de Bure-Saudron, donc qui prévoit la fabrication d'un biocarburant de deuxième génération à partir de la biomasse forestière. Donc table donc faite sur 120 000 tonnes issues de la forêt meusienne.
C'est biocarburant, donc c'est plutôt pour éventuellement pour gens en voiture et autre chose. C'est pas bioénergie comme on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt pour des chaudières.
Oui, c'est ça, c'est la pour sortir ce gaz, la liquéfaction du gaz qui permet de sortir un carburant directement.
Moi, ce que je trouverais important de rajouter, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien s'il y a un pilote dans l'avion. C'est-à-dire que, par exemple, le projet de gazéification du bois à Bure-Saudron se trouve sur le Pays Barois, qui a un plan climat territorial. Au niveau du Conseil régional, il y a un plan climat régional. On se retrouve régulièrement dans un certain nombre d'instances qui... discutent de politique énergétique, de politique forestière. Et puis, on en est toujours à se poser la question de savoir précisément quelle est la ressource bois qu'on peut sortir des forêts, quelle est l'orientation qu'on veut donner à la production forestière. Est-ce qu'on veut bien avoir cet objectif noble qui est de sortir du bois pour, enfin, du bois d'œuvre ? Et pas forcément du bois énergie ou du bois pour mettre dans les chaudières. Et nous, l'analyse qu'on avait faite à Mirabel de l'orientation de la politique énergétique en Lorraine montrait que, avec la fermeture d'un certain nombre d'installations, avec les nouveaux projets qui arrivaient, on serait une région comme on l'est actuellement de production énergétique, mais qui dégagerait encore plus de carbone qu'avant. Donc ça ne va pas dans le sens que nous on souhaite d'une meilleure utilisation de la ressource locale et pour faire une politique énergétique qui s'oriente vers la sobriété, l'efficacité énergétique et la protection du climat lorrain. Enfin lorrain et national et international. Thank you.
Le projet de centrale à Bure n'est qu'un exemple. Lors de la rencontre à Die, nous avons également entendu parler de projets à Brignoles, à Gardanne, à Tricastin. En ce qui concerne Tricastin, c'est un représentant de la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la Drôme, qui a dénoncé les conséquences d'un projet de centrale à cogénération biomasse au bois. Cette centrale serait nécessaire afin de remplacer le réseau de chaleur produit par l'usine d'enrichissement d'uranium à Tricastin, qui arrête son activité en 2012. Le besoin annuel en plaquettes de bois serait de 150 000 tonnes. La FRAPNA objecte qu'il n'y a pas cette quantité de bois disponible sur la zone d'approvisionnement présumée. Philippe Leuvenberg, le conseiller général de Die délégué à la filière bois, admet qu'aucune étude n'a été encore finalisée pour permettre d'évaluer les potentialités de la forêt drômoise. Selon la FRAPNA, l'impact d'une déforestation incontrôlée risque d'être irrémédiable car les massifs sont peu accessibles et sont sensibles aux variations climatiques. Des recommandations du Conseil général pour que l'entreprise prenne en compte des pratiques forestières raisonnées auraient dû être incluses dans la délégation de services publics, mais cela n'a pas été fait. Le seul paramètre pris en compte dans ce projet est la production d'une chaleur à moindre coût. Pour réagir à ce genre d'évolution et pour proposer des alternatives, il est essentiel de créer des associations ou des regroupements régionaux. SOS Forêt en Lorraine en est un très bon exemple.
En fait, le collectif SOS Forêt, c'est un mouvement en devenir. C'est-à-dire qu'il est parti d'une convergence de vues et d'appréciation de ce qui se passe en Lorraine. On veut de toute façon une forêt qui soit une ressource économique, mais aussi qui soit un milieu de vie. C'est pas uniquement, c'est pas une plantation de bois. Une forêt, c'est autre chose. On veut des sylvicultures adaptées au milieu et qui permettent justement de garder une forêt qui n'est pas une simple usine à bois. Étant donné qu'on était des structures extrêmement différentes, on s'est d'abord posé la question de savoir ce qui nous réunissait et puis des actions effectivement qu'on allait mener. Et actuellement, on a donc élaboré 16 propositions qui en fait sont un petit peu le socle sur lequel on se retrouve et qui touchent à peu près à l'ensemble des sujets. On a lancé une pétition nationale et une de nos premières actions a été d'interpeller le commissaire européen pour décrire la situation en Lorraine et lui dire que cette situation en Lorraine était contraire à ce que souhaitait l'Europe et aux directives européennes. Voilà. Il n'y a pas d'action déterminée à l'avance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut se retrouver sur tous les fronts qui font que la forêt est malmenée, la forêt est surexploitée, ou bien la forêt est gérée d'une manière qui ne nous convient pas. Et il y a une mobilisation très forte des forestiers de terrain. On sent très bien que, par exemple, il y a un malaise important au niveau des communes forestières, par exemple. Alors, pas forcément au niveau de l'organisation des coforts, de la structure qui fédère les communes forestières, mais quand on en discute dans nos communes, on sent bien que les forestiers ne sont plus présents comme ils l'étaient auparavant. Et on sent que les communes aimeraient pouvoir s'organiser d'une manière différente, de manière à ce que le produit de la forêt communale et la gestion de la forêt communale soit réappropriée au sein des communes. Voilà.
Et souvent, c'est l'alternative qu'on ne voit pas. Et le réseau est un peu né de ce besoin-là.
Si on est là aujourd'hui pour les rencontres sur les alternatives forestières, c'est bien parce qu'on est persuadé qu'on peut faire autrement. Florent parlait beaucoup de la mécanisation tout à l'heure. Est-ce que la mécanisation, c'est la solution? Sachant que la mécanisation, c'est de la consommation d'énergie et c'est aussi une quantité d'emplois locaux ruinés. Alors, faut-il voir les gens pointer à Pôle emploi ou faut-il voir les gens se déployer sur des métiers où ils vont retrouver un sens et où en fait ils vont retrouver un sens parce que la manière dont ils vont travailler et l'objectif dans lequel ils font par exemple du bois d'œuvre ou du bois énergie pour les besoins locaux va leur permettre de retrouver un sens à leur métier.
Il y a eu une réaction de la profession ou pas ?
Je dirais que les politiques mises en œuvre aussi bien dans la forêt publique que dans la forêt privée sont assez confidentielles pour le grand public. Et même nous, Association de protection de l'environnement, on n'a pas toujours le temps ni les moyens d'aller à la rencontre de ces acteurs qui finalement pour nous sont assez obscurs. C'est pas forcément une volonté d'opacité, mais on ne se connaît pas bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'on a peu d'occasions de les rencontrer. Ils mènent leur politique de leur côté. Nous, on mène notre, contestation de l'autre. Et on ne se retrouve pas souvent, finalement, pour échanger. Et je crois que c'est dommage, parce que quand on les rencontre, on s'aperçoit que là aussi, il peut y avoir des convergences. Je pense par exemple à une réunion dans la vallée de la Sault où il y a ce projet de gazéification du bois par le commissariat à l'énergie atomique, donc à Bure-Saudron. Dans la salle, il y avait une personne qui travaillait, qui dirige la société Carbo France et qui alertait sur le fait que, alors qu'elle est implantée depuis plusieurs années dans le secteur, que c'est donc une entreprise qui fonctionne, qui a des emplois, qui travaille avec une matière locale, elle a de plus en plus de mal à trouver du bois pour alimenter son activité. Et puis, on va engloutir des centaines de milliers de mètres cubes dans des projets comme celui de la gazéification du bois. Donc, il y a vraiment, un déficit, effectivement, de relations entre nous tous. On n'est pas forcément si éloignés les uns des autres.
Ça, c'est quelque chose que j'ai comme constaté, moi, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des gens de l'ONF, des usagers de la forêt en tout genre. Le constat est quand même assez unanime, même si, je dirais, des fois, les positions sont plus ou moins tranchées, plus ou moins modérées. Il y a quand même cette volonté, je dirais, de tout le monde, mis à part vraiment des très hautes instances dirigeantes qui, elles, exercent clairement une pression et une mobilisation forte pour augmenter la productivité de la forêt. Finalement, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était complètement opposé au message qu'on développe. Je veux dire, tout le monde est sur le même constat, tout le monde se plaint de détérioration de la qualité du travail, qu'effectivement, on adapte la forêt aux machines au lieu de faire l'inverse. Mais ces constats sont quand même unanimes. Hein, et maintenant, le niveau fait que le simple citoyen qui se balade en forêt, qui lui ne connaît absolument rien à la gestion forestière, est lui-même offusqué de voir ce qu'il y voit.
Pour conclure cette émission, écoutons Pascale Lossel, co-animatrice du réseau pour les alternatives forestières, qui habite dans la Drôme. Depuis 2 ans, elle s'implique fortement dans 2 initiatives, les Bonnes Énergies et Dryade, qui cherchent à favoriser la fourniture en bois de chauffe local, tout en assurant le respect de l'écosystème et des bûcherons. C'est aussi Pascale qui a organisé cette rencontre du réseau ADI.
Quand on commence à s'intéresser à la question du bois-bûche, on en vient très vite à la question du bûcheron. Et on se rend compte que le bûcheron, il travaille souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Enfin, un des objectifs, c'est de créer de l'emploi, mais de l'emploi correctement rémunéré et dans des conditions de sécurité bonnes et valorisées. Le travail de bûcheron en tant que tel, c'est un travail qui est très dangereux. Par contre, au niveau du revenu, ils sont payés, ils sont très mal payés. Les bûcherons bois-bûche, hein, parce que bois d'œuvre, c'est un petit peu différent. Donc c'est des hommes qui sont mal payés, qui socialement sont assez peu reconnus, puisque il a plutôt celui qui coupe l'arbre, il a plutôt une mauvaise image, c'est un ours, alors que c'est des gens sensibles qui finalement travaillent pour la société et qui n'ont pas de reconnaissance. Donc nous on voudrait les valoriser économiquement, c'est-à-dire les payer dignement pour leur travail, et puis socialement, c'est-à-dire qu'on connaisse leur métier, leurs difficultés, et voilà, donc en fait, les Bonnes Énergies et Dryad, c'est deux associations qui travaillent dans le même sens. Les Bonnes Énergies, c'est une association qui est née à Die, il y a à peu près 2 ans, donc on est en 2010, avec vraiment une thématique très locale qui était d'utiliser le bois local qui est du résineux, en fait. Donc on a beaucoup de pain noir et puis du pain sylvestre. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ce bois-là pour se chauffer? Donc remettre au goût du jour le bois résineux qu'on peut très bien brûler si on respecte des conditions, c'est-à-dire avoir des bonnes machines, des poêles de masse, des poêles double combustion qui brûlent à haute température, et auquel cas, si le bois est sec, ça marche très bien. Les peuples du Nord, ils se chauffent au résineux. C'est juste que voilà, ici en France, on a plutôt l'habitude du chêne ou du hêtre, mais c'est d'une certaine manière, c'est du gâchis. Pour les gens du Nord, brûler du chêne, c'est un peu une aberration. Donc ça, c'est les Bonnes Énergies. Et Dryad, en fait, a été créé un petit peu plus tard à mon initiative, suite à ma rencontre avec le RAF et à la découverte que j'ai eue de tous ces aspects de forêt où je me suis intéressé à mon territoire et où je me suis dit voilà, il fallait faire quelque chose puisqu'on est sur un mode très... très, comment on dit, très binaire, c'est-à-dire que où on laisse la forêt, on n'y fait rien, où on arrive, on fait une coupe rase. Donc on se dit, attends, si on a besoin de bois, comment est-ce qu'on va faire différemment? Donc voilà, on essaye d'expérimenter à plusieurs endroits. C'est des circuits très courts, participatifs, sur le modèle des AMAP, donc qui implique les consommateurs de bois, les propriétaires et puis les bûcherons ou exploitants. Et on essaye d'inventer une nouvelle organisation économique, mais pas que économique, sociale, autour de ces questions-là, avec le bûcheron au cœur du travail. Il faut qu'on trouve des consommateurs pour acheter le bois, sachant qu'on leur demande de commander le bois au moment du chantier, donc bien avant de le brûler et de payer la moitié. Des exploitants ou des entrepreneurs de travaux forestiers pour faire le travail, et puis des propriétaires pour avoir des parcelles de forêt et s'engager dans un travail de soins à la forêt. Donc on organise des réunions publiques pour trouver des gens, et avec un effet secondaire qui, d'une certaine manière, est un effet premier, qui est qu'on parle de la forêt et de ces questions de comment est-ce qu'on gère nos forêts, comment est-ce qu'on répond à nos besoins sans tout saccager. Et donc les réunions publiques, elles nous permettent de trouver des gens pour travailler ensemble, mais en tant que tel, c'est super, c'est très très riche, quoi.
Et les réactions jusqu'à présent, tu as trouvé déjà, par exemple, des propriétaires qui sont prêts à travailler avec vous pour fournir du bois, enfin pour laisser travailler leur forêt?
Bah là, les deux premiers chantiers qu'on a menés, donc un à Die et un à Cré, on a les propriétaires, on les a trouvés pas pendant les réunions publiques, mais plus par réseau personnel, et c'est deux agriculteurs qui sont en bio, qui sont très intéressés par le projet, et puis qui avaient envie de découvrir ces techniques forestières et d'apprendre à mettre... voilà, à travailler leur forêt un peu autrement, en cohérence avec leurs pratiques agricoles. Puisque finalement, quand on regarde un petit peu les pratiques des agriculteurs, même bio, c'est-à-dire qui ont une éthique, et une éthique enfin, écologique, et souvent ils n'ont pas vraiment la notion, en tout cas dans mon expérience, d'appliquer cette éthique à la forêt. Donc là, les gens qu'on a rencontrés, ils avaient envie de ça. Donc on a fait ces chantiers, ça s'est bien passé, et puis bah là on est sur des petits territoires, donc ça commence à parler, il y a des gens qui viennent vers nous, donc petit à petit on espère qu'on va pouvoir étendre les surfaces et puis développer ces techniques-là. Et puis là on commence à s'intéresser aux communes, et sur Die particulièrement, puisque là ils sont en train de revoir le plan d'aménagement de toute la forêt qui entoure Die. Donc on va commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut rentrer, il faut voir si on est accepté, hein, mais est-ce qu'on peut participer à ça sur la question des débouchés? Et je pense que ce serait vraiment intéressant de travailler ça et de faire bouger un peu, justement, est-ce que des citoyens peuvent s'impliquer dans la gestion des forêts communales ou domaniales, c'est-à-dire la forêt publique qui, d'une certaine manière, nous appartient à tous. Je sais que sur... Tout le quart sud-est, il y a beaucoup de gros projets de chaudières à bois qui sont sur des tailles démesurées et qui n'ont pas du tout pris en compte dans leur construction la capacité, la ressource forestière. Et c'est assez inquiétant, c'est même très très inquiétant. Et ce qui est fou, c'est que tous les forestiers, que ce soit public, privé, sont contre. Parce que là, qu'on s'intéresse à la gestion douce ou pas, c'est juste une évidence qu'il n'y a pas la ressource pour répondre à toutes ces chaufferies qui, en plus, ne prennent pas en compte le fait qu'il y a d'autres chaufferies qui se montent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément capables de répondre à leurs propres besoins, mais en plus, avec toutes les autres qui vont faire concurrence, ça va être impossible. Donc là-dessus, on est tous un peu à se demander quoi faire. La FRAPNA sensibilise un petit peu, commence à travailler avec les communes, en particulier Valence, qui veut monter une chaufferie. Donc là, ils prennent en amont, ils disent « attention, comment on va la faire? Qu'est-ce qu'on construit ensemble ?» Mais c'est un vrai problème et on ne sait pas encore très très bien comment on va y répondre.
Qu'est-ce qui est prévu le prochain temps avec les bonnes énergies et Riyad?
Alors là, pour les bonnes énergies, on cherche des parcelles de forêt. Et puis Dryade, eh ben, on a fait un chantier, on a fait une première phase d'abattage, donc qui a été fait par des professionnels du bois et puis des gens qui avaient envie de se former. Donc ça a été un chantier à moitié production et puis à moitié formation. Et là, on va débarder le bois, c'est-à-dire sortir le bois de la forêt pour pouvoir le mettre sur sa place de stockage. Et on va organiser un chantier collectif avec les consommateurs du collectif, les consommateurs de bois, et puis tous les gens intéressés par la forêt, les gens qui ont coupé. Et en fait, pour nous, c'est un temps... Bon, ça va permettre de faire du travail de façon bénévole et donc d'avoir un petit peu plus de flexibilité financière. Mais surtout, ça va permettre d'amener les citoyens dans la forêt, de montrer le travail qui a été fait, d'expliquer ce que c'est que la sélection des arbres, comment on regarde la forêt, de passer un temps de travail collectif et puis de comprendre, parce que quand on passe une journée à travailler en forêt et à porter du bois, on comprend un petit peu ce que c'est que le travail de bûcheron, de forestier, d'exploitant, et ça permet de remettre un petit peu les choses à leur place et peut-être aux gens de comprendre que le bois, il a une valeur, que c'est un travail difficile et qu'il faut payer le prix. Et voilà, et ça pour nous, c'est extrêmement important, c'est un pilier de ces structures. Il faut qu'on leur donne un nom à ces groupements. Alors nous, on parle d'AMAP Bois, mais c'est pas bien. Mais circuit court participatif.
En fait, je voulais aussi savoir à peu près combien maintenant il y a des consommateurs. Quand vous faites une réunion comme ça, ou plutôt un chantier collectif, ça implique combien de monde?
On a 30-35 participants et puis les chantiers collectifs. À 10, on était à 20-25. À Cré, je ne sais pas encore, puisque ce n'est pas fait. Je compte sur une vingtaine de personnes à peu près. Voilà, sachant qu'après, ça parle, parce qu'on est sur des petits territoires. Donc ça a plutôt un bon retour et on est assez content.
C'était « De quel bois on se chauffe ?» La 9e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Si vous voulez plus d'informations sur le réseau pour les alternatives forestières, vous pouvez consulter la page Forêt sur le site www.relier.info.